Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Les chiffres des nouvelles infections au coronavirus, très inquiétants. Le cap des 25 millions de contaminations a été franchi. En Inde, record mondial d'infections quotidiennes, avec près de 80 000 nouveaux cas hier. En Allemagne, la manifestation anti-coronavirus dégénère. Les manifestants tentent de pénétrer dans le Parlement. Leur hashtag, le président allemand dénonce une attaque contre le cœur de la démocratie. Plusieurs manifestations anti-masques en Europe, comme à Paris hier. Ce matin, les médecins rappellent que le port du masque est essentiel.
Sur le plan strictement médical, c'est une aberration. Si on est anti-masque, ça veut dire qu'on est pro-maladie, donc pro-séjour en réanimation, voire pro-décès des personnes infectées.
Le professeur Jean-Paul Stahl du CHU de Grenoble. J-2 avant la rentrée des classes, Jean-Michel Blanquer annonce une rentrée et une année scolaire aussi normale que possible. Et un Grenelle des professeurs. Parents, profs, élèves, médecins se posent beaucoup de questions. Invité de ce journal, Claire Crépeur du syndicat enseignant SE-UNSA. Dans ce journal également, le Tour de France. Deuxième étape aujourd'hui avec la haute montagne. Et puis, le mystère de l'eau sur Terre, sans doute éclairci.
France Inter.
Mais comment va se passer la rentrée des classes? La question intéresse les 12 300 000 élèves qui retournent à l'école après-demain, mais aussi leurs parents, leurs professeurs ou instituteurs et tout le personnel scolaire, et également les syndicats d'enseignants et les médecins. Jean-Michel Blanquer, dans une longue interview au Journal du Dimanche, répond aux principales interrogations. Il annonce un Grenelle des professeurs. On en reparlera dans un instant avec notre invité, Claire Crépeur du SE-UNSA. Rémi Brancato, bonjour.
Bonjour.
Alors, les questions qui se posent pour cette rentrée, Jean-Michel Blanquer nous dit rentrée normale ou la plus normale possible, mais il y a encore, Rémi, pas mal d'inconnus.
Et Jean-Michel Blanquer tente de dissiper les inquiétudes des parents et des enseignants pour cette rentrée. Tout, dit-il, ne doit pas être écrasé par la réalité sanitaire. Mais cette réalité le rattrape dans cet entretien au JDD. Il reconnaît qu'il y aura des écoles fermées mardi, mais le moins possible, dit-il. Ensuite, chaque fois qu'un enfant ou un adulte présentera des symptômes du Covid-19, on entrera, précise dans une logique de test et d'isolement, et en cas de test positif, le ministre renvoie aux autorités sanitaires qui décideront s'il faut ou non fermer des classes. Pour le reste, le protocole est connu, le masque obligatoire dès 11 ans et pour tous les adultes. Quant aux détails, il renvoie cette fois-ci au bon sens de chacun. Il vaut mieux éviter l'excès de normes, dit Jean-Michel Blanquer, pour la cantine ou le sport par exemple, et favoriser la visioconférence pour les réunions parents-professeurs. Mais dans certaines régions, si les cas de Covid augmente, les mesures pourraient se durcir jusqu'à des fermetures d'établissements. Jean-Michel Blanquer annonce enfin ce Grenelle des professeurs, vous le disiez, avec d'abord des groupes de travail avec les syndicats dès la rentrée, puis des négociations en novembre. Objectif, augmenter les rémunérations. L'enveloppe supplémentaire est de 400 millions d'euros.
Merci Rémi Brancato. Invité de ce journal, Claire Crépeur. Bonjour madame.
Bonjour.
Secrétaire générale adjointe du syndicat d'enseignants SE-UNSA, en charge de l'éducation. Claire Crépeur, comment les profs et vous, votre syndicat, abordez-vous cette rentrée au moment où des médecins appellent à durcir le protocole sanitaire dans les écoles, les collèges et les lycées?
Alors tout d'abord, dire que les enseignants sont heureux que tous les élèves puissent retrouver le chemin de l'école. C'était quelque chose de très important, de rétablir le lien avec l'école et de redonner confiance aux parents pour que tous les enfants soient à nouveau scolarisés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
oui, parce
c'est
que Claire Crépeur, certains élèves,
que la rentrée pourrait être compliquée et tourner très vite mal, dans le sens où il pourrait y avoir développement de contamination et peut-être fermeture beaucoup trop rapide. En tout cas, ça n'est vraiment pas ce que souhaitent les enseignants. Les enseignants souhaitent qu'on prenne toutes les mesures pour que les écoles restent ouvertes et accueillent les enfants toute l'année.
Alors oui, effectivement, certains élèves ne sont pas retournés à l'école depuis plus de 6 mois. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui l'école est prête face à l'épidémie?
Alors clairement, non. L'école n'est pas totalement prête pour faire face à cette épidémie. Beaucoup de retard a été pris. On a vu des protocoles. Le protocole n'est arrivé que jeudi très tard dans la soirée. Des fiches de recommandations n'ont été publiées que vendredi. Vous imaginez bien que les rentrées la rentrée était déjà largement préparée et que les enseignants n'ont pas envie de tout remettre à plat, de tout recommencer à la dernière minute. On a l'impression que le ministre n'a rien appris de la période précédente et qu'on va revivre à nouveau l'improvisation, les préconisations à géométrie variable et qui arrivent toujours trop tard.
Alors l'une des craintes quand même, Claire Crépère, c'est qu'une classe ferme ou un établissement ou qu'on réduise le nombre d'élèves dans les classes au bout de quelques semaines. Est-ce que cela est anticipé ou est-ce que ça va être encore le 6MD pour les parents?
Le ministre dit que tout est prêt, mais concrètement, sur le terrain, le protocole n'a pas été, ou les protocoles n'ont pas été déclinés et organisés. On voit bien que le ministre renvoie la balle au bon sens, renvoie la balle aussi aux collectivités territoriales en parlant d'accueil périscolaire ou d'accueil complémentaire de l'école, mais aucune discussion n'a été véritablement ouverte avec les autorités municipales, par exemple pour l'école primaire, pour être sûr qu'on pourra organiser cet accueil s'il faut passer à des demi-groupes ou s'il faut même fermer les écoles ou certaines classes.
Alors, Claire Crépère...
Tout reste à faire, il nous semble. Ouais. Vraiment, très concrètement, tout reste à faire.
Ouais, c'est encore le flou. Hein. Claire Crépère, le Grenelle des profs, annoncé ce matin par le ministre, bah, c'est pour vous, ça. C'était une de vos demandes. En tout cas, c'est ce qui ressortait dans de vos sondages sur le pessimisme des enseignants. Donc, ce Grenelle des professeurs...
Oui, tout à fait. La première préoccupation des enseignants, et c'est depuis de nombreuses années, c'est la revalorisation de leur rémunération. Ça fait 20 ans que les enseignants perdent du pouvoir d'achat, malgré quelques tentatives ces dernières années avec une nouvelle, ce qu'on appelle le PPCR, mais c'est insuffisant pour compenser les effets de l'inflation et le blocage de nos salaires depuis de très très longues années. Cette ouverture de négociation, nous l'attendions déjà depuis un an, hein, puisque ça fait longtemps que le ministre a promis de s'occuper de cette question. Il avait promis 500 milliards, maintenant je crois qu'on est descendu, alors je sais plus si c'est milliards ou millions, je suis très mauvaise avec les grands nombres, crois que l'enveloppe est déjà un peu réduite.
C'est 400 millions, 400, ouais. Les discussions vont démarrer à la rentrée avec des groupes de travail sur le Grenelle des professeurs et l'enveloppe c'est 400 millions supplémentaires.
Oui, millions bien sûr.
Pour augmenter les salaires. Claire Crépère, oui. Merci beaucoup, secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant SE UNSA. Confirmation ce matin de la ministre des Armées, Florence Parly, un officier français soupçonné d'espionnage pour la Russie a été mis en examen pour trahison. Florence Parly expliquait que l'officier était sous le coup d'une procédure judiciaire pour atteinte à la sécurité. Catastrophe sanitaire en Inde. Le pays annonce une hausse du record du nombre de contaminations par le coronavirus. 80 000 nouveaux cas, ou à peu près, ces dernières 24 heures. L'Inde, comme Bastin, venait d'assouplir le protocole sanitaire pour relancer l'économie du pays.
Ni le Brésil, ni les États-Unis n'avaient enregistré une telle envolée. Avec plus de 77 000 nouveaux cas journaliers détectés depuis jeudi, l'Inde connaît la plus forte hausse jamais enregistrée depuis le début de la pandémie. Au total, le sous-continent compte 3,4 millions de personnes infectées et 63 500 morts. Il est difficile de prévoir quand l'épidémie marquera le pas. Sita Brasinha, épidémiologiste à l'Institut des sciences mathématiques de Chennai, travaille sur le taux de reproduction du virus. Lorsque ce chiffre tombe en dessous de 1, la maladie commence à ralentir sa croissance.
Nous étions à 1,8 fin mars et ce chiffre est peu à peu descendu à 1,05. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'épidémie est terminée. Par ailleurs, il est possible que les statistiques soient inexactes parce qu'un grand nombre de personnes contaminées ne sont même pas testées.
Selon le Center for Monitoring Indian Economy, 18,9 millions d'emplois salariés ont été perdus depuis le confinement. Le gouvernement central tente donc de soulager l'économie ravagée du pays. Le 1er septembre, les métros devraient être à nouveau autorisés. Ces relâches pourraient cependant conduire à une augmentation plus importante du virus. La rentrée s'annonce décisive pour l'évolution de la pandémie en Inde. Comme Bastin, Bangalore, France Inter.
Il s'agit de dérapages inacceptables pour le gouvernement allemand. Une attaque contre le cœur de la démocratie pour le président Steinmeier. Hier à Berlin, une manifestation anti-coronavirus contre le port du masque a rassemblé 38 000 personnes. À l'issue du rassemblement, rassemblement, plusieurs centaines de personnes, notamment des sympathisants d'extrême droite, ont tenté de forcer l'entrée du Reichstag, le Parlement. Les images ont choqué en Allemagne. La police a finalement pu repousser les manifestants. Plusieurs manifestations anti-masques se sont déroulées hier en Europe, à Londres, Zurich ou Paris, pour dénoncer ce que les manifestants, notamment à Londres, considèrent comme une tyrannie médicale. En France, on le sait, de nombreuses villes ont rendu obligatoire le port du masque pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Et sur le plan médical, le port du masque est essentiel, comme l'explique le professeur Jean-Paul Stahl, spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Grenoble.
Sur le plan strictement médical, c'est une aberration. Si on est anti-masque, ça veut dire qu'on est pro-maladie, donc pro-séjour en réanimation, voire pro-décès des personnes infectées. Donc ça n'est absolument pas rationnel. C'est quand même une forme d'égoïsme. C'est-à-dire, moi, le masque, c'est une contrainte, donc je n'en veux pas parce que je ne supporte pas la contrainte. Mais on ne regarde pas ce qui se passe autour de vous et on ne regarde pas l'impact que ça peut avoir pour les autres. Il y a une frange très minoritaire, hein, il faut quand même le reconnaître, très très minoritaire de la population qui ne peut pas être sensible aux arguments et qui ne veut pas être sensible aux arguments. Alors les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup à la fois dans l'extension et dans la lisibilité de cette minorité, mais il faut pas non plus penser que la majorité des Français sont dans cette mouvance.
Le professeur Jean-Paul Stahl ce matin sur France Info.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Les manifestations se poursuivent chaque jour en Biélorussie et notamment le dimanche à Minsk, la capitale. La mobilisation pour contester la réélection du président Loukachenko ne faiblit pas. Minsk est aujourd'hui bouclé par la police et les accréditations ont été retirées à certains journalistes étrangers. Et dans le même temps, le pouvoir réprime un peu moins durement qu'auparavant les rassemblements contre Loukachenko. Yulia Choukan, professeure à Paris-Nanterre et spécialiste de la Biélorussie, elle est actuellement à Minsk. Elle est interrogée par Édouard Marguier.
On a vu que le pouvoir essayait de se montrer beaucoup plus doux, en tout cas, dans ses tentatives de réprimer. Enfin, quand je dis doux, on ne voit pas de violence extrêmement arbitraire.
Car il se sait observé par la communauté internationale.
Tout à fait, bien évidemment. Mais dans le même temps, la police boucle la ville. Il semblerait que la place du rassemblement est déjà bouclée et les interpellations ont repris. Notamment les hommes, en fait. Dans les manifestations, les femmes sont laissées libres et on est avec les hommes. Et ensuite, ils encourent tous ce risque d'amende imposée pour participation à des actions non autorisées par le pouvoir. Et donc, bien évidemment, on peut s'attendre à tout, mais en tout cas, ici, les manifestants sont déterminés à redescendre dans la rue et à rester pacifiques, en fait. C'est extrêmement, cet esprit pacifique de la mobilisation est extrêmement présent et cet attachement au côté pacifique de la mobilisation est là.
Le président russe Vladimir Poutine et le biélorusse Alexandre Loukachenko vont se rencontrer, mais pas tout de suite. Une rencontre est prévue, annonce le Kremlin, dans les prochaines semaines. Et puis sur franceinter.fr, je vous signale l'article d'Élise Delève et le témoignage d'un jeune reporter photographe, Paul Tsa, qui a couvert les premières manifestations en Biélorussie. Le Hezbollah, prêt à discuter d'un nouveau pacte politique au Liban, proposé par la France. Nous sommes ouverts à toute discussion, explique Hassan Nasrallah, le chef de la formation pro-iranienne. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera demain à Beyrouth. Donald Trump se rendra mardi à Kenosha, dans le Wisconsin, où Jacob Blake, un Afro-Américain, a été grièvement blessé dimanche dernier par un policier. Donald Trump devrait s'entretenir avec les responsables de la police de Kenosha et examiner les dégâts causés par les émeutes qui ont suivi. Jamais aussi haut, jamais aussi tôt, voilà le programme pour la deuxième étape du Tour de France, étape de haute montagne dans l'arrière-pays niçois. On retrouve en direct sur le Tour Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Fanny, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. On espère qu'il y aura moins de chutes qu'hier.
Ça devrait parce qu'il y a du soleil aujourd'hui et pas de pluie annoncée jusqu'à l'arrivée. Avec, vous l'avez dit, c'est vrai, une étape inédite hein, dans l'histoire du Tour de France. C'est la première fois qu'on va passer deux fois à plus de 1500 mètres d'altitude avec le col de la Colmiane, 1500 mètres, puis le col de Turini, très difficile, à 1607 mètres d'altitude. C'est rare dès la deuxième étape du Tour, c'est même inédit. On espère hein, qu'il y aura moins de chutes. Il pourrait en revanche y avoir de très belles attaques remarqué également de gros écarts à l'arrivée, ce qu'on appelle, Frédéric, l'écrémage par l'arrière. Vous savez, tous les coureurs qui sont tombés hier, tous les coureurs qui ne sont pas des grimpeurs risquent de perdre du temps aujourd'hui. Des nouvelles tout de même de Thibaut Pinot. Vous le savez, il a chuté lourdement hier. On l'a vu ce matin. Il est venu nous dire quelques mots. Ça va, mais il a des douleurs au coude, au genou droit et également dans le dos. Il espère aujourd'hui finir avec les meilleurs.
Merci Fanny Lechevestrier sur la Moto France Inter, pilotée par Jean-André Giannichini. En rugby, un joueur du club de Saint-Gaudens est mort hier lors d'une rencontre après un plaquage. Le joueur âgé de 30 ans a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il n'a pas pu être réanimé. Depuis 2018, 5 joueurs de rugby sont morts consécutivement à des plaquages. L'événement ce soir en football, c'est la finale de la Ligue des Championnes avec l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnaises affrontent les Allemandes de Wolfsburg à Saint-Sébastien. Elles sont favorites pour décrocher un nouveau sacre dans cette compétition. Ce serait le 7e. Pour la gardienne de but également, Sarah Bouadi, son portrait, Cédric Guillou.
Sarah Bouadi n'aurait pas dû disputer cette nouvelle finale avec l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat avec l'OL en juin dernier, elle était même en partance pour jouer pour la formation de Utah aux États-Unis. Mais la gardienne internationale a finalement prolongé son bail avec son club de toujours. Ce soir, Sarah Bouadi va disputer sa 9e finale en Ligue des Champions et elle pourrait soulever la coupe pour la 7e fois de sa carrière. Nadia Ben Mokhtar, la consultante foot de Radio France.
Sarah Bouadi, c'est la gardienne emblématique du football féminin de la dernière décennie. C'est une joueuse qui a un caractère bien trempé, qui dégage beaucoup de confiance, ce qui la positionne vraiment comme l'une des leaders de l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée en 2009. Tous ceux qui s'intéressent de très près au football féminin et qui suivent activement les championnats savent qu'elle est la meilleure gardienne française depuis une décennie.
Et pour garnir un palmarès déjà bien fourni, Sarah Bouadi comptera avant tout sur l'Olympique Lyonnais. À 33 ans et après 149 apparitions en équipe de France, elle a en effet décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses.
Et quelle carrière, coup d'envoi du match à 20h. L'origine de l'eau sur Terre reste un mystère que l'on va tenter d'élucider maintenant avec Sophie Becherel. Et c'est un peu un pavé dans la mare que lance une chercheuse de Nancy et son équipe spécialisée en chimie des roches extraterrestres. L'étude est parue vendredi dans la prestigieuse revue scientifique américaine Science et elle plaide pour une origine très ancienne de l'eau sur Terre. L'eau est-elle arrivée une fois la Terre formée ou bien était-elle présente dans les roches primitives qui se sont agrégées pour former notre planète? C'est en étudiant une douzaine de cailloux extraterrestres que l'équipe de Nancy en arrive à la deuxième hypothèse, Sophie Becherel.
Les chondrites sont des météorites issues de petits astéroïdes. Elles sont dites primitives car leur composition n'a pas été modifiée depuis 4,5 milliards d'années, date à laquelle le système solaire s'est formé. Laurette Piani, cosmochimiste au CNRS, a choisi d'étudier une variété rare tombée sur Terre, les chondrites en statite.
Nous, on s'est intéressé spécifiquement aux chondrites en statite parce que c'est parmi les météorites celles qui ressemblent le plus à ce qu'ont pu être les roches à partir desquelles la Terre s'est formée.
Ce que voulait savoir la chercheuse, c'est si ces cailloux contiennent de l'hydrogène, car grâce à la présence d'oxygène dans les roches terrestres, les processus géologiques peuvent conduire à la production d'eau. Deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène font H2O, à la fois dans la croûte terrestre et à la surface de la Terre.
Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, ces météorites qui ont longtemps été supposées être sèches, puisqu'elles se forment a priori dans le système solaire interne, dans des zones où la température est trop chaude pour contenir de l'eau, et ben en fait, ces météorites, dans leurs minéraux, on retrouve de l'eau dans des quantités qui sont significatives et qui pourraient expliquer en fait les quantités d'eau qu'on a sur Terre.
Voilà qui vient contrecarrer la théorie la plus communément admise, qui veut que ce sont des petits corps riches en eau, comme les comètes, qui sont tombés sur Terre pour l'ensemencer et ainsi permettre le développement de la vie.
Sophie Becherel, et on termine ce journal avec le mondial de tango en Argentine. En raison cette année de la pandémie de coronavirus, la compétition se déroule à distance via Internet. Jusqu'à ce soir, les amoureux de tango argentin pourront suivre concerts, balles, films et cours de tango, ainsi que la finale du championnat du monde. Reportage Caroline Vic.
Dans une grande cour en plein air et une forêt en fond, Lola et Emmanuel, en robe beige fendue et smoking et masqué, dansent un tango sensuel et passionné. Ce tango filmé et envoyé au jury leur a valu une place en finale. Et pour la première fois, c'est le public qui choisira le couple champion. Le danseur Emmanuel Marine.
L'adrénaline qu'on ressent sur une scène, avec le public tout près de nous, c'est un sentiment unique. On vit quand même quelque chose de très beau. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner, on est très émus et on a hâte de connaître les résultats.
Mais il n'y a pas que la compétition. Parmi les activités proposées, des cours de tango. Et bien sûr, les professeurs ont aussi dû s'adapter à ces circonstances exceptionnelles. C'est le cas de la danseuse Vanessa Vichalba.
On a utilisé les lumières qu'on avait à la maison. On a fait quelques achats en ligne, de micros par exemple, pour que les gens nous entendent bien. On a poussé le canapé et la table pour pouvoir filmer le cours. Donc vous aussi, faites un peu de place chez vous pour pouvoir faire la chorégraphie.
Ce festival en ligne est donc une aubaine pour les amateurs de tango du monde entier qui pourront profiter de tout le programme et pratiquer leur jeu de jambes gratuitement et depuis leur salon. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Le festival et le mondial de tango à suivre sur Facebook et YouTube, Tango BA. Du tango à la météo, il va faire un peu frais cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Une ambiance fraîche où seul le pourtour méditerranéen sort du lot avec 23-25 degrés cet après-midi dans le golfe du Lion, 27 à 30 de la Corse à la Provence contre simplement 17 au maximum près de la Manche où le vent de nord sera particulièrement sensible et 20 à 22 sur les autres régions. Le régime d'averse, parfois mêlé d'orage, va comme hier concerner la plupart des régions avec une atténuation progressive de l'instabilité en cours d'après-midi par l'arc atlantique, embellie également près de la Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane, mais des averses possiblement orageuses restent probables sur le relief du Languedoc-Roussillon, des Alpes également de la Corse, avec beaucoup de vent sur les caps. Demain, les températures vont globalement rester basses pour la saison, avec un vent turbulent en Méditerranée, mais du soleil. Les averses vont rester fréquentes de la façade est à la Corse, tandis que plus à l'ouest, c'est progressivement un ciel d'éclaircie qui va s'installer.